Un extrait actuellement, oh, oui, c'est fini, de l'opéra bouffe d'Emmanuel Chabrier, un peu méconnu, qui s'appelle L'Étoile. Dans L'Étoile, eh bien, vous êtes dans le monde de Ouf Premier, un espèce de tyran, et un petit peu tout le monde dans cette famille aime beaucoup les actes sadiques, les pâles, là c'était les chatouillis, sur les jeunes hommes, enfin, voilà. Vous avez toute une palette intéressante à écouter et peut-être à s'en inspirer par les temps qui courent. Vous êtes bien sur Radio Canu, la plus belle des radios. Et pourquoi cette introduction pour les petits tas dans le mou, 330e édition? Parce qu'aujourd'hui, selon le calendrier du Père Ubu, concocté par Alfred Jarry, nous sommes la Sainte X. Eh oui. Et c'est le patron des suppliciés. Mais pourquoi donc? Parce que, selon le calendrier apostolique et romain, vous n'êtes pas sans ignorer que nous sommes la Sainte André. Et André, eh bien, il a subi son supplice sur une croix particulière qui était en forme d'X, d'où on parle encore aujourd'hui de la croix de Saint André. Eh bien non. Pour nous, c'est la Sainte X, et on va tâcher pendant une petite heure de vous aligner à travers nos rubriques des stratégies pour s'épargner la souffrance. On en a bien besoin. Et voici tout de suite notre rubrique Alpha. Lettres pseudonymes et faux attentats. Deux semaines après l'assassinat, il est temps que je vienne témoigner à cette antenne et exposer les doutes qui se présentent à moi. Des doutes étayés sur des preuves. Un président qui se déplace n'importe où sur le territoire court des dangers. C'est bien connu. D'autre part, les Lyonnais sont des citoyens assez extraordinaires, sur plus d'un plan. Ils sont persuadés que les forces de police sont à toute épreuve. Mais bon. C'est au commissariat du quartier Saint-Just qu'on s'inquiétait le plus, d'après les archives. Le 8 juillet 1894, après l'assassinat de Sadi Carnot. Remarquez. Autre chose. La dame Corquet, âgée de 53 ans, ménagère, demeurant en chemin de la Favorite, 18, épouse d'Évariste Corquet, commissionnaire des Crotteurs, a déclaré au nommé Bourgin, et ce, en présence du fils dudit Bourgin, prénommé Émile, séminariste, que le 7 courant, vers 7 heures du soir, la dame Tranchant lui a dit qu'une dame Leclerc avait dit à la dame Servonnet que le fils de la dame Sauvage, domicilié rue des Fossés de Trion, numéro 12, avait dit à cette dernière que le président de la République viendrait à Lyon le 23 ou le 27 juillet courant et qu'il y serait assassiné. Attendez, le 23 ou le 27 juillet ? Il est donc question de Monsieur Casimir Perrier. Ah, si ce n'est pas à rebours, le zèle des agents est stimulé. Pardon. À Nantes, Mario a réagi à temps. La main de Carlotta est restée retenue en l'air entre son visage et le visage de Carlotta. Il n'y a pas de défi sur le visage apaisé de Carlotta. Je suis une vraie anarchiste. Elle a dit ça tout bas cette fois, et Tellier, marchant sur elle, une larme à l'œil, laisse sortir un « c'est vrai » sur le ton d'une porte qui grince. Puis lui fait une bise au vol, comme un frère, qui apprend qu'il sera le parrain d'un génie, et les autres ne savent pas quoi penser. Et Béchet, qui donne un franc coup de coude à Guillet, soupire, soupire, et les regardant tous, « Et l'amour libre, vieux frère ?»« On y va, » dit Mario, en rengainant sa main dans sa poche. « On sort. » Il faut dire que convoquer tout un peuple pour enterrer une seule victime, tomber sous le coup d'une colère, d'une désespérance ou d'une folie, c'est trop. Le Panthéon ? Le Panthéon pour un homme dont le règne fut sans trace dans le domaine sublime du génie ? Marque une irréductible débilité intellectuelle chez nos modernes bourgeois. Pourquoi, dans la classe dominante, l'héroïsme s'est-il fait si rare qu'il faille honorer aujourd'hui comme le symbole de toutes les vertus, finissant par le suffixe « hic » un des rares dirigeants tombés parce qu'il y a des causes de mort dans nos antagonismes économiques. Je n'accuse pas, monsieur, je ne dénonce pas. Je vous retrace, moi, mot par mot, les conversations que j'ai eues avec le dit Benoiton. C'est ainsi que j'ai appris qu'ils étaient entendus avec le nommé Chautard, dit Père Pénard, pour faire sauter le magasin Thébault, rue des Olivettes, à Nantes, il y a de cela une semaine. Son rôle ? Je n'en sais pas plus, mais qu'il est complice, ça je le sais, car j'y ai posé des questions et je sais qu'il possède une perruque et une fausse barbe. Il a acheté deux binocles, un bleu et un noir, qu'il porte encore sur lui. Il a donné le bleu à Chautard, il a gardé le noir, ça je le sais. Je n'accuse pas, monsieur, j'ai des doutes. Je constate. Tout ça est peut-être bien bête. Je vous fais connaître ce que j'ai appris de lui. C'est à vous et à la justice d'en faire votre affaire. Dès que mon agent 12 m'a remis ce pli, dont l'auteur ne s'était pas révélé autrement que par la signature de 1000 Auguste, J'ai sollicité auprès de vous, monsieur le préfet, une dérogation pour me rendre rue des Caporniers, à Chantenay, adresse que le dipli indiquait. Comme on pouvait s'y attendre, il ne se trouve aucun individu porteur du nom 1000 Auguste, rue des Caporniers, à Chantenay. J'ai délégué le sous-inspecteur Guel pour se rendre au domicile de Benoît ton père, demeurant rue de Coulmiers, 37, pour lui demander des renseignements et l'adresse actuelle de son fils, celui-ci ayant quitté récemment son dernier appartement de la rue des Petites Écuries pour un domicile inconnu de nos services. Le dit Benoît ton père a aussitôt fait connaître que son fils se trouvait actuellement rue des Caporniers, à Chantenay, mais qu'il devait bientôt quitter ce logement pour une destination qui n'a pas été indiquée dans sa dernière lettre datée du 31 août 1897. Le sous-inspecteur Guel, demandant à avoir connaissance de la susdite lettre, monsieur Benoît ton père s'est empressé de la lui confier. Cette missive m'ayant été présentée, j'ai reconnu et constaté que l'écriture me paraissait conforme à celle du courrier daté du 9 septembre dernier, signé 1000 Auguste. Dès ce moment, je n'ai plus eu de doute. L'auteur de la lettre dont il s'agit était le nommé Benoîton, qui s'est dénoncé lui-même comme étant l'auteur ou le complice de la fumisterie déguisée du 2 septembre dernier à l'angle du magasin Thébault, rue des Olivettes. Nous le poursuivons actuellement, nous concentrant sur la recherche de son nouveau domicile. J'ai bon espoir, les renseignements se recoupant, de le remettre sous peu entre les mains de la justice. Recevez, monsieur le préfet, mes salutations dévouées. Le commissaire spécial, chargé de la surveillance des anarchistes près la préfecture de Nantes, Charrier.
N'alerte rien, vous semble un fauteuil ordinaire. Eh bien, mon cher, écoutez bien, c'est un fauteuil extraordinaire. D'abord, il ne dit rien aux yeux, ce n'est qu'en s'asseyant soi-même que par un truc ingénieux, on en comprend tout le système. Donnez-vous la peine de vous asseoir, mon bon ami, vous allez voir.
Et bien quoi
qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il?
Vous allez joliment travailler.
Bien.
Ce jeune homme, je me suis amusé à faire son horoscope.
Et alors?
Oh, qu'est-ce que je vois malheureux.
Mais parle!
Une de ces étoiles est intimement liée à la vôtre et elle ne peut vous se quitter.
Et alors?
De sorte que lorsque l'un de vous deux aura cessé de vivre, l'autre devra le suivre à un jour d'intervalle.
Mais qu'est-ce que tu dis là?
La vérité, majesté, la vérité. Et comme moi, d'après votre testament, je dois vous suivre dans la mort un quart d'heure après vous. Vous comprenez que l'importance, je l'attache.
Sapristi! Et moi qui allais? Arrêtez! Arrêtez! Tout est changé! J'ai fait grâce à ce jeune homme.
Grâce?
Il n'y aura pas d'exécution cette année.
Oh!
Mais il y en aura deux l'année prochaine.
Oh!
Quant à toi, je t'emmène au palais avec moi.
On l'a pour ma porte soudain, au lieu du pâle, mon pâle en cœur.
Voilà, c'était un autre extrait d'Emmanuel Chabrier, l'étoile. Et bien sûr, là, c'était la découverte de ce fameux fauteuil qui est un peu central dans cette histoire. Un fauteuil où, en actionnant la manivelle, comme vous l'avez entendu, on peut faire sortir un pâle de dessous. Puis après, donnez-vous la peine de vous asseoir. Bon. On continue donc de toute façon à fêter les suppliciés. Il va bien falloir le subir. Peut-être pas dans le silence. Et d'ailleurs, voici venir la rubrique Bêta. Comme chaque semaine hebdomadaire, chères auditrices et chers auditeurs, vous pouvez dès à présent décoller votre pavillon auditif de votre poste à Galène et vous orienter, si vous en avez une, vers la fenêtre de chez vous, donnant sur ce ciel qui vire petit à petit à la neige. Et peut-être parmi les futurs flocons, allez-vous voir s'approcher des studios de Radio Canu, la navette spéciale de Miss Cosmos.
Du roi, non, de saluer. Bonjour, chères auditrices et chers auditeurs de Radio Cadette. Aujourd'hui, j'ai réussi à météoriter, bien que oui, c'est vrai, il a fallu un peu slalomer entre les futurs flocons. Et d'ailleurs, j'ai attrapé un chat dans la gorge qui flottait parmi les flocons aussi. Mais ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, je voulais vous parler de la chanson Désengagée. Oui, bah oui, c'est, hein. Bah, supplicier, c'est sympa, mais engager, c'est autre chose, hein. Chères auditrices et chers auditeurs de Radio Canette. Vos chansons portent leurs préférences sur l'amour ou sur les petits destins minables. L'intemporalité, quoi. N'est-ce pas, moi ? Oui, oui. J'ai bien écouté depuis la dernière semaine hebdomadaire. C'est chouette. Et ça fait du bien aux oreilles. Pour être bien, bon et largement diffusé. Et il faut être apolitique. Pas parce que l'habitant du météorite est un animal complexe aux multiples facettes. Mais peut-on plaire à tout le monde, chères auditrices et chers auditeurs de Radio Canette ? Le mieux dans les chansons est d'exposer sa vie intérieure. Essayez de déballer ce qui se passe dans la tête. Parce que chanter, c'est se chercher, par chez vous. Ce n'est jamais dépassé. Le thème est éternel, quelles que soient les angoisses de l'époque. Quel que soit le président, quelle que soit votre vie sexuelle, quelle que soit la bombe atomique, les insultes, la discrimination et les révoltes. C'est mieux comme ça. L'artiste du météorite court après les privilèges. La richesse avant tout. Lui demande-t-on de faire preuve de courage, de s'engager auprès de la banque alimentaire ? Non, il est du devoir de l'artiste de dire « je ». Et l'artiste vous fait oublier le monde. Shake it off. Moins il vous en dit, mieux c'est. Moi. Un artiste politique. Non mais à quel titre ? Il faut garder le flou pour être aimé par chez vous. Ne jamais dire pour qui l'on roule, pour garder son public. D'ailleurs, en général, l'artiste est ignare. C'est pour cela qu'il soigne ses apparences, à ce que j'ai constaté depuis la dernière semaine hebdomadaire de ma constellation des pénates au moyen de mon télescope. Par exemple, être femme implique-t-il d'être féministe ? Drôle d'idée. Prénom des quatre fers. La femme sur scène, c'est moi, personne d'autre. Moi, disent aussi vos présidents. C'est singulier. Je ne vends pas des idées, des convictions. La scène par chez vous, c'est le centre du météorite, une fois qu'on y est. Le plus drôle est que vous arrivez à y croire et que le météorite s'abolit. Une fois que vous êtes sur scène, alors votre art est mort. Vive l'art. Bon, moi, ce que j'en dis, toute notre vie dans la constellation des pénates est artistique. Il n'y a rien qui ne le soit pas. À part cette navette spéciale égocentrique qui à chaque fois nous pose des bâtons dans les roues parce qu'elle ne pense qu'à elle. D'ailleurs, je vais vérifier tout de suite si elle veut bien démarrer.
Si tout se passe bien, à la prochaine semaine, hebdomadaire.
À la mode, oui, j'ai lu ça dans un journal. C'est cette offense, on croit que banale, pourtant qu'elle a droite méthode. Si vous chantez la liberté, la justice, l'égalité, on vous traite de démagogue, et dès que l'on vous catalogue, auteur dont il faut se méfier, de vous l'on écrit, c'est commode. Avec dédain, avec pitié, ce monsieur connaît son métier, il fait du gauchisme à la mode, il fait du gauchisme à la mode. Je fais du gauchisme à la mode, mais que fait ce pouvoir d'argent qui prend souci des pauvres gens, mais juste en certaines périodes, quand pensionnés et retraités de quelques francs sont augmentés. Ce sont leurs voix que l'on raccole, ils vont voter dans les écoles. 8 jours plus tard, l'immobilier brandissant les foudres du code les expulse de leur quartier. Dressez constat, monsieur l'huissier, je fais du gauchisme à la mode, je fais du gauchisme à la mode, je fais du gauchisme à la mode, si quand je pense aux objecteurs, traités comme des malfaiteurs, mon cœur point ne s'en accommode. Et que dire des étudiants que l'on fait chômeur et mendiant, bien avant qu'ils n'aient leur diplôme. Quant au prince de son royaume, à l'intérieur bien intégré, vais-je lui consacrer une ode. Quand il traque les immigrés, non mon prince, mille regrets, je fais du gauchisme à la mode, je fais du gauchisme à la mode. Je fais du gauchisme à la mode et l'on me dit manipuler. Et l'on croit pouvoir révéler à quel parti je m'inféode. Allons messieurs, soyons sérieux, tout simplement j'ouvre les yeux. Je suis témoin de mon époque, le succès présent je m'en moque. L'histoire d'hier à nos jours fut écrite par des rhapsodes, des rimeurs et des troubadours. Le temps des cerises est bien court.
C'était du gauchisme à la mode.
C'était du gauchisme à la mode.
Jean-Roger Cossimon, le gauchisme à la mode. Nous vous rappelons que vous êtes sur Radio Canu, 102.2 MHz, 100 FM et en stéréo, s'il vous plaît, la plus belle des radios. C'est l'émission Les Petits Tas dans le Mou. Et aujourd'hui, selon le calendrier du Père Ubu, concocté par Alfred Jarry, nous sommes la Sainte X, puisque selon le calendrier apostolique et romain, nous sommes la Sainte André qui fut suppliciée sur un X, une croix en forme de X, la croix de Saint André. Et donc aujourd'hui nous fêtons les suppliciés, mais on essaye aussi de vous aligner quelques stratégies pour s'épargner la souffrance. Rubrique Gamma. Les cancres esclaves. Dans notre ville où l'on travaillait la soie, il n'est pas exagéré d'affirmer que la soie, en soi, est du domaine de la femme. Depuis la feuille du mûrier sur laquelle on élève le verre jusqu'à l'atelier où l'on façonne la robe et le chapeau, on trouvait du personnel féminin. Toute une armée, en fait. Et cela pour quel objet ? La soie. La soie en soi. Mais pour d'autres que soi. Je voulais démarrer cette rubrique sur la soie pour aborder les plaisirs de l'amour, aussi frêles que ce textile désuet. La question qui reste sans réponse est : est-il plus agréable de donner que de recevoir ? Dans chacune des deux positions, il s'agit d'orgueil, mêlé d'humilité. Mais qui oserait se comparer à notre Seigneur Jésus, qui donnait autant qu'il recevait ? Vous savez, le plaisir d'amour consiste tout simplement à fournir des citoyens à la patrie, tout comme l'ovaliste procurait de jolis produits à notre bourgeoisie. Vous voyez, de quelque côté qu'on le prenne, la volupté consiste à varier la façon dont on façonne le mal. Pas de volupté sans mauvaise pensée et sans mal distribué concrètement. L'enfant est fait. Maintenant, il va recevoir les sanctions de l'éducation nationale, mais on va améliorer ces sanctions, dans la mesure où l'élève devra les avaliser, les signer lui-même et pointer ses faiblesses de son propre chef. L'enfant va inscrire sur son bulletin de notes « Je ne veux plus voir de tels résultats déplorables. Je vais faire des efforts surhumains pour me dépasser. Je dis que ce sont mes camarades de classe qui me distraient, mais c'est un mensonge grossier. Je prétends que le prof est un dictateur, mais c'est le plus gentil de tout l'établissement. » Ne vous mettez pas en colère contre ces nouvelles méthodes pédagogiques, chers auditeurs. Qui ne reprend pas à son compte ce que les éducateurs ont énoncé à notre propos? C'est ce qu'on appelle la responsabilisation. Vous connaissez? La responsabilisation est la voie de l'autonomie, qu'on soit élève, salarié ou chômeur. L'autonomie est synonyme de soumission, mais une soumission qui vous est proposé d'une voix suave, un peu comme faisaient les curés. Signe tes propres fautes. Regarde-les à la loupe. Réjouis-toi qu'il n'y ait plus de châtiment corporel. Écoute les vieux, comment on les traitait dans les écoles de province. Les instituteurs d'antan créaient des révoltés dans les rangs des cancres, des résistants. De nos jours, on encourage les mauvais élèves dans la vocation de l'avette. Depuis ce temps, X a succédé à André sur le trône. X est né à Saïs, pour votre gouverne. Vous voyez, Saïs, ça se situe dans l'agglomération de Sioupe. Souvenez-vous de vos leçons de géographie. Au début, X fut très critiqué, car il amenait des manières nouvelles. Pour cette simple raison, on ne l'estimait pas. X était un homme du peuple. Je veux dire par là qu'il était issu d'une famille très ordinaire. Le problème qui se posa tout de suite à lui fut de se concilier ses sujets. Je signale ici que, comme tous les cancres, X était habile et d'autre part bienveillant, n'en doutons pas. Bientôt, il eut droit à sa part d'affection parmi le peuple. Petit à petit, il acquit une richesse considérable. Il se baignait dans une bassine en or. Enfin, il s'y trempait les pieds, conviant ses invités à l'imiter. Vous savez qu'on ne se lave les pieds que quand on en a besoin. Donc, il finit par négliger sa bassine et la brisa en plusieurs morceaux, car il songea qu'il était temps de fondre cet or pour en faire la statue d'un dieu sur la place, bien en vue de tout le monde. Le peuple, curieux comme toujours, s'en alla admirer la statue. C'était une œuvre admirable, personne n'en douta. Le moment était venu pour X de rassembler ce peuple. Depuis le début, il voulait raconter cette histoire devant la foule. Ce dieu que vous voyez là, je ne lui ai pas donné de nom. C'était naguère la bassine où je trempais mes pieds. J'ai même craché dedans. Parfois, j'y ai uriné. Et je vous passe le reste. Ce qui signifie que cette statue... Cette statue signifie... C'est que nous connaissons tous le sort de la bassine, en or, destinée à notre toilette intime. Sortie du peuple, nous devenons rois par le hasard des circonstances. Ainsi, je ne tolérerai plus que quiconque me manque de respect. Si vous ne comprenez pas l'allégorie de la statue en or, je saurai vous enseigner cet art. Cette statue vient d'une vulgaire bassine, et moi je ferai de vous des esclaves tout aussi simplement. Que vous soyez originaire des Balkans ou d'un autre coin perdu, pour moi, vous êtes tous du même métal qu'il m'est loisible de défigurer à coups de maillotche. Vos joues sont pour moi des caillots tuméfiés, c'est pourquoi je vous prescris la patience. Une résistance humble et ferme au régime que je vais vous faire subir. Apprenez à repriser vos hardes. Il est facile de garder un vêtement tout le long de sa vie, quand on est soigneux. Je ne vous demande que de rester propre et correct dans toutes les situations. La première des qualités est le respect de soi et de sa propre dignité, même si je vous jette au cœur des enfers. Vous ne serez jamais en loque, car moi, je m'habillerai toujours devant vous en costume de carnaval, afin que vous ne perdiez pas le sens du rire. Maintenant, je vous engage à serrer la ceinture dans la joie, et ceci durera sur plus d'une génération. Vous voyez comme je ne cache rien, parce que vous êtes mon peuple d'esclaves et de cancres. Votre seul plaisir officiel sera ce petit séjour en camp que je vous accorderai sur un rythme régulier tout au long de l'année. Dispersion et discipline, telles sont les consignes. Et vous verrez, ce sera le redressement productif.
Passer ma vie sur les routes, nomade tel un vagabond. Passer ma vie goutte après goutte, goûter tout ce qu'il y a de bon. Passer ma vie à raconter des histoires, chanter des chansons. Fuir ce monde qui est illusoire, ce monde qui me fait la leçon. Moi, poète inutile, fainéant, improductif et lâche. Moi, la cigale qui chante l'été quand les fourmis se tuent à la tâche. Passer ma vie à crier sur les toits que l'homme n'est pas fait pour ça. Passer ma vie tout près de toi parce que sans toi je ne suis pas. Ils ont bâti un monde de blasés qui pensent que tout est cuit, qui pensent que plus rien ne peut changer nos rêves, nos vies, nos espoirs écrasés, enchaînés à leur chaîne de pensée, esclaves de leur réalité. Passer ma vie à essayer de me persuader qu'un jour peut-être les choses changeront d'elles-mêmes. Passer ma vie à vouloir faire avec, passer ma vie à accepter tout ce que je ne peux pas changer. Passer ma vie à vouloir changer tout ce que je ne peux pas accepter. Passer ma vie à te regarder dans le blanc des yeux. Passer ma vie à espérer qu'on sera toute la vie tous les deux. Passer ma vie tant bien que mal à vouloir vivre le bonheur. Quand bien même ce monde nous inonde de ces immondices horreurs. Un étranger, c'est tout ce que je suis. Sur terre je n'ai pas de chez moi. Chez vous c'est bien trop petit, trop à l'étroit dans votre paradis. Mon cœur et mon âme s'évadent, s'envolent, rêvent d'une autre vie. Passer ma vie, 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 passer ma vie à oublier qu'un jour viendra la nuit qui me dira que mon heure est passée, que je ne pourrai plus désormais passer ma vie tout près de toi à me dire que tu es si belle. Passer mes nuits sous ce toit où nos songes se ramassent à la paix. Passer ma vie à crier à l'injustice et aux mensonges. Passer ma vie à passer.
passer pour un fou, un parano, un étrange. Passer ma vie à m'indigner pour tout et pour n'importe quoi. Passer ma vie à radoter les mêmes mots pensés mille fois. Passer ma vie à regarder passer ce monde fier, futile, furieux, folle caravane de l'insensé. Passer ma vie, penser, dépenser cette vie dont j'aimerais être heureux le jour où elle sera dépassée. Passer ma vie.
HK et les saltimbanques, passer ma vie. Ceci pour nous amener jusqu'à notre ultime rubrique, la rubrique... Ba, Yaka. Le soufflet des Durands. Bon, cette fois, puisque c'est la fête des suppliciés, on va dire... André et Alix Dagobert acceptent l'invitation des Durands. André Dagobert supplie sa femme de se montrer aimable, au moins cette fois. Parce que la dernière fois où ils ont répondu à l'invitation, il a failli ne pas y avoir de prochaine fois. Alix fait remarquer qu'une nouvelle fois, Dagobert confond tout. Parce que ce qu'il évoque de manière si peu galante concerne la famille Pète-la-Joie et non les Durands. Chez qui ils se rendent ce soir. André Dagobert rectifie. Il s'agit en fait des Brettes Joie, et il est très désagréable de jouer avec les noms de famille, c'est puéril. Monsieur Dagobert est très impressionné par les nains de jardin des Durands, surtout par la Blanche-Neige sous le bouleau, juste avant l'entrée. Madame Durand, pendant ce temps, exprime de l'air entre ses lèvres serrées à la flûtiste et... Ils s'en vont ouvrir. Monsieur Durand la bouteille, Madame Durand la porte d'entrée. Bizarre cette porte d'entrée. On dirait qu'elle s'ouvre dans un bruit de bouchon de liège. Et cela ressemble à une guillotine en accéléré. Évidemment, la bouteille contient du Rothschild, à moins que ce soit du mouton. Alors voilà, tout ce petit monde s'est retrouvé autour du soufflet, et à la dernière bouchée du dit soufflet, la communauté sextile souffle, enfin respire. Je ne sais plus comment on appelle cette utilisation des voies naturelles. La conversation s'engage comme des hostilités longuement mûries. Tout un chacun des 6 personnes, sans distinction d'âge, de rang ou de sexe, suppute que comme on fait son lit, on se couche. La femme d'Agobert, qui n'a jamais eu peur de sa peur, cette femme en particulier, appréhende, depuis son premier pas dans ce domicile, que les hommes aient l'honneur de choisir un thème, dont on ne se dépatouillerait pas de la soirée. Elle connaît parfaitement son mari. Il adore parler des sujets les plus récents, et l'événement le plus récent n'est pas pour mettre en valeur Alix Dagobert. Et Monsieur Durand, il ne s'exprime que par allusion douteuse par-dessus le marché. Il faut épouiller son discours, et cette activité est extrêmement épuisante lorsqu'il n'y a plus rien dans l'assiette pour compenser le trouble. Donc, Alix Dagobert fixe intensément la maîtresse de maison, dans l'espoir de lui communiquer une pensée. Mais elle désespère d'en trouver aucune à lui transmettre par imposition des yeux. Elle a beau s'estranciner, la dame Dagobert, rien ne vient. Or, la dame Durand, elle, a quelque chose qui lui trotte dans le cigare. Et aussitôt, elle lance à la cantonade. Vous n'êtes pas bavard ? Seriez-vous venu uniquement pour les plaisirs de la table ? Et son mari renchérit. Comme le laisseraient à penser les proportions de notre ami. La dame Durand, qui est la politesse même, fusille son homme d'un regard peu amène. J'ai grossi, vous trouvez, depuis la dernière fois. Monsieur Dagobert est la sincérité même. Son plus jeune garçon signale à toute la tablée que son père ne connaît rien à la vie et qu'on n'y peut rien, il est trop tard. Cet enfant a trouvé récemment cette expression « Tu ne connais rien à la vie ». Mais il n'y place aucun sens. Madame Durand est offusquée. Vous le laissez comme ça, s'exprimer de cette façon, ce vaurien. Madame Dagobert se sent concernée, puisqu'il s'agit d'un de ses fils. Voilà, il est en train de se passer ce qu'elle redoutait depuis son premier pas dans ce domicile. Mais elle ne s'y laisse pas prendre. Elle se lève d'un bond. Les toilettes, déjà. Ça, c'est un coup dont elle est familière, Alix. Mais son mari aussi en a l'habitude et il lâche. Ha ! S'il n'y avait pas les lieux, hein, où irions-nous nous recueillir ? Alors là, la femme qui n'avait jamais eu peur de sa peur parvient au terme de sa tolérance. Elle traverse le premier mur qui comporte une issue et erre à la recherche de la sienne. Talonné par le cadet dans les méandres des couloirs qui se succèdent à un rythme endiablé. Au salon, l'atmosphère se détend. Chacun ressent cet allègement soudain comme une vessie qui passe de la rétention à l'assouvissement. Le soufflet, bien qu'un peu léger, est très bien passé, ma foi, dit l'invité en cherchant du regard une deuxième bouteille. Ha! C'est le cas de sortir la bouteille que vous avez amenée. Où est-elle un peu, la coquine? Barrie l'amphitryon. Comme ça, pour le fromage, avec la bouteille que vous avez amenée. Le fils le plus mature, resté à table correctement, dit « Voilà !» Et il sort de son cartable une bouteille de rouge de table extrait du rayon le plus terre-à-terre d'une grande surface que je ne nommerai pas. Le père balle des bras. Ça se dit, balle des bras. Ah, soufflez le père, ajoute le fils. Où est ta mère? Je suis le chef de famille, quand même. Et quand je prends ma voix de colonel, j'aime qu'on accède à mes ordres, hein? Le maître des lieux, monsieur Durand, s'est emparé de la bouteille sur ses entrefaites. Il chausse les lunettes qu'il portait jusqu'alors en collier. Oh, père Julien, sans âge de cuvée, grand cru, à n'en pas douter, grand, très grand cru. C'est ta mère qui a choisi, petit. Ma mère, elle aurait voulu apporter des fleurs, ma mère. Je suis l'aîné, comme vous le savez déjà. J'ai pensé qu'il fallait arroser avant que ça pousse. Et puis, madame est déjà une fleur, non? Ma mère, elle disait... Je veux pas qu'on apporte une bouteille en plus de ça. J'ai pensé, mon vieux, on va assurer les arrières. J'assure. Papa, tu me pardonnes d'être entré à la maison 7 minutes en retard. C'était pour les Durand. Mais maintenant tu le sais. Je me demandais depuis un brin de temps ce que tu foutais avec ton cartable chez les Durand. Mais tu ne m'as pas répondu. Où est ta mère, branleur? Je ne sais plus quoi faire de toi.
Ben, on va toujours aller chercher le fromage. Peut-être que ça suscitera son retour. Qui c'est qui? On va chercher le fromage.
Thank you.
une composition d'Ennio Morricone, disons, un soir à dîner. C'est le titre, et dirigé par lui-même, en l'occurrence. Voilà, donc tout cela, c'est pour dire un soir à dîner, c'est pas forcément... Mais ça peut être un supplice, hein, mais ça peut l'être, surtout chez les Durand. J'espère que je vous ai inspiré quelques stratégies pour vous épargner les souffrances, qu'elles soient domestiques, politiques, sociales, et la froidure de l'hiver aussi. Vous m'en direz des nouvelles, c'était la Saint-X, donc sur les petits tas dans le mou, Radio Canu, la plus belle des radios. Je vais vous laisser avec la bande passante, dite bande continue, des musiques et des chansons choisies par les animateurs éclectiques de cette radio. Et ce, jusqu'à 17h, où vous retrouverez l'émission Intrinsèque, les musicalités gaulo-gauloises cul par-dessus tête. À 18h, les paysans et paysannes dans la lutte des classes. Aujourd'hui, ce sera la diffusion d'un reportage qui a été fait par Radio Zinzine, une de nos collègues associatives, sur que va devenir la ZAD, Notre-Dame-des-Landes, si effectivement, comme c'est bien parti, le projet d'aéroport est supprimé, annulé. Et donc, c'est un peu les projections sur ce qui pourrait s'y passer par la suite. Voilà. Et à 19h, comme chaque jour de la semaine hebdomadaire, le journal de Radio Canu. Quant à moi, si tout se passe bien, je vous retrouve la prochaine semaine. Toujours, je respecte le calendrier du Père Ubu concocté par Alfred Jarry. Et nous serons la Sainte Abbé Quille. Oui, l'Abbé Quille, c'est le patron des boiteux. Voilà, ce sera encore tout un programme. Après le supplice, la boiterie. Et pourquoi pas, on vous engagera. Peut-être, sans doute, c'est pas encore bien prêt, mais à boiter les deux pieds, c'est quand même mieux.